Vous êtes sur Radio Galaxie, merci de nous rejoindre sur le 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse. Et nous allons parler Volvestre, nous allons parler communauté de communes, nous allons parler déchets. Et pour en parler, je suis avec Philippe Marcel. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Philippe Marcel, vous êtes le directeur du service collecte et valorisation des déchets sur la communauté de communes du Volvestre. Alors, ce qui est intéressant dans ce titre, c'est qu'il y a déjà deux mots qui sont super importants. C'est le mot collecte et ensuite le mot valorisation. Et on va en parler ensemble tous les deux. Mais d'abord, les déchets sur le Volvestre, ça représente quoi ?
Les déchets sur le Volvestre, tous déchets confondus, ça représente, bon an, mal an, plus de 18 000 tonnes de déchets qui se répartissent entre les déchets qui sont collectés devant la porte des usagers, hein, le bac jaune et le bac gris, et les déchets qui sont collectés par le biais des déchetteries, qui représentent une quantité assez importante.
Ce tonnage par rapport à la population, quelque chose qui correspond à ce qui se fait sur l'ensemble du territoire ? C'est plus, c'est moins ?
Oh, on est complètement dans la norme de la typologie du territoire, qui est un territoire qui est à la fois rural et un petit peu urbain. Donc on est dans la norme de ce qui est constaté au niveau national.
Ça correspond à quelle quantité par personne, je ne sais pas, par foyer ?
Tout déchets confondus, on arrive à près de 500 kilos de déchets par an et par habitant.
Par an et par habitant, c'est
oui,
quand même assez considérable.
Par an et par habitant, c'est considérable, oui.
Alors, ça, c'était la partie collecte. La collecte se fait aujourd'hui en porte-à-porte avec les camions qui circulent toute la semaine sur l'ensemble du territoire. Vous avez combien de camions et combien d'employés pour faire ça ?
Alors, pour collecter, nous avons 15 salariés et 5 camions. Ce sont des équipes de 3 personnes, un chauffeur et 2 rippers, qui collectent quotidiennement, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, les déchets conditionnés dans les bacs gris et dans les bacs jaunes, à raison d'une à deux collectes de déchets pour les bacs gris et d'une collecte tous les 15 jours à une collecte par semaine pour le bac jaune.
Là, si on faisait un emploi du temps, la journée d'un reaper, c'est quoi ? Ça commence à quelle heure ? Ça finit à quelle heure ?
Alors, la journée d'un reaper, ça commence de bonne heure parce que l'idée, c'est quand même d'essayer de causer le moins de tracas possible à la population. Donc, on essaie de commencer très tôt pour ne pas gêner la circulation. La journée d'un reaper, ça commence à 5h du matin et ça se termine vers 1h de l'après-midi.
Quel que soit le temps, quelles que soient les conditions.
Quel que soit le temps, quelles que soient les conditions, nous ne nous arrêtons jamais. La production de déchets est une production continue et il faut bien enlever les déchets qui sont produits par les habitants.
Alors si on devait aider un petit peu le travail de ces reapers, de ces personnes qui ramassent les poubelles, qui les versent dans les camions, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dire, voilà, soyons humains, c'est un métier qui n'est pas facile, c'est un métier physique, c'est un métier qui se fait tout au long de l'année, quel que soit le climat, qu'il soit très chaud, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il gèle. Si on leur facilitait la tâche, ça serait de faire quoi ?
Alors, les reapers, vous serez infiniment reconnaissants de bien vouloir positionner vos bacs en bordure de trottoir, le plus près possible de la voirie, et autant que faire se peut, avec les poignées de préhension tournées vers la route. Ils les remettront exactement au même endroit, avec les poignées de préhension tournées vers le trottoir.
Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on met dans ces bacs. On a un bac gris ou noir, selon les cas, et on a un bac jaune. Alors, déjà, dans le bac jaune, on y met quoi ? Parce que c'est compliqué, les gens se posent la question. Je mets ça, je le mets pas, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?
Depuis quelques années, on est passé à ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Ça permet de mettre vraiment beaucoup de choses aujourd'hui dans le bac jaune. En gros, et pour le faire simple, on y met tout ce qui est en plastique, tout ce qui est en papier, tout ce qui est en carton et tout ce qui est en métal. Alors sur le plastique, c'est là où les gens se posent le plus de questions. Est-ce que j'y mets mon pot de yaourt ? Est-ce que j'y mets mon pot de margarine, ma bouteille d'huile ? Oui, y compris les barquettes en polystyrène, y compris tout ce qui est emballage plastique ou dérivé de plastique.
Les pochettes cellophane autour des barquettes ?
Les pochettes cellophane autour des barquettes, les pochettes autour des courriers, des prospectus, les prospectus eux-mêmes. Donc tout ça va dans le bac jaune.
En revanche, je n'y mettrai pas tout ce qui est produit d'hygiène, c'est-à-dire les mouchoirs en papier, les tissus en papier, etc.
C'est exactement ça. Tout ce qui est produit d'hygiène, mouchoirs en papier, tout ce qui est à risque potentiellement infectieux, les couches, etc., etc., va dans la poubelle grise.
Deux questions encore. Les dosettes de café ?
Les dosettes de café vont dans le bac jaune. Elles sont majoritairement composées d'aluminium, qui est en plus l'un des matériaux les plus recherchés dans le recyclable.
Les gobelets en carton que...
Les gobelets en carton vont également dans le bac jaune. On y met à peu près tout, sauf les restes de repas. et les déchets qui sont issus des produits d'hygiène.
Je dois les laver, les pots de yaourt, les bacs de margarine ?
Surtout pas. Vous les videz, certes, mais surtout ne pas les laver, ce serait contre-productif, puisqu'on générerait des flux d'eau usée qu'il faudrait traiter par ailleurs. Donc, vraiment, ce n'est pas une bonne idée de les laver. D'autant qu'aujourd'hui, dans les centres de tri modernes, ce sont de moins en moins des humains qui trient les déchets, ce sont des machines qui sont fort peu incommodées par les restes alimentaires qui pourraient rester au fond des emballages.
C'est ça, la deuxième partie. Donc, une fois que mes déchets sont mis dans le bac jaune, en fait, c'est apporté au centre de tri. Et là, ce sont des machines, des robots, entre guillemets, qui vont reconnaître la matière qu'ils doivent traiter et qu'ils vont ensuite répartir sur des tapis différents, j'imagine.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, le centre de tri est constitué d'une succession de machines pour séparer les déchets en fonction de leur taille et de leur densité. Et ensuite, ce sont des aimants qui servent à extraire les métaux ferreux. Un courant de Foucault qui est un aimant un peu particulier qui sert à aimanter l'aluminium. Et ensuite, on a des trieurs optiques qui en fait sont des machines qui sont programmées pour reconnaître une qualité de déchets en fonction de son niveau d'opacité et qui permet de trier ces déchets-là. Donc en fait, sur le principe, c'est que chaque machine est prévue pour extraire une famille de déchets sur le centre de tri. In fine, tous les déchets sont triés et ce qui reste à la sortie, ce sont les indésirables, les éventuelles erreurs de tri faites par les usagers.
C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on met dans le bac jaune. On n'emballe pas ces déchets dans des sacs, il faut qu'ils restent visibles pour que la machine puisse les reconnaître.
Oui, c'est tout à fait ça. Il faut éviter d'imbriquer les déchets, surtout ne pas mettre, par exemple, une boîte de conserve dans une boîte en carton, hein, ou le pot de margarine en plastique dans la boîte en carton de céréales, parce que la machine est programmée pour reconnaître un type de déchet, et si on a deux déchets qui sont imbriqués l'un dans l'autre, elle ne sait pas si c'est du plastique ou du carton, ou du métal et du carton, et par défaut, elle va écarter les deux qui vont se retrouver dans les refus, ce qui est assez dommage. De même, il ne faut surtout pas conditionner les déchets dans des sacs fermés, parce que le sac fermé en soi va être reconnu comme étant un déchet, mais par contre, le trieur optique ne va pas savoir et ne va pas savoir différencier le contenu du sac. Donc, ne sachant pas ce que c'est, il va l'écarter, et ça va également finir dans les refus. Il convient de vider le sac dans lequel vous avez conditionné les déchets dans le bac jaune. Il faut qu'il soit en vrac, quitte à laisser le sac dans lequel vous aviez conditionné les déchets dans le bac jaune également, puisque lui-même constitue un emballage.
Là, on a parlé de la collecte, de ce que je mettais dans le bac jaune. On a vu que c'était trié à droite et à gauche par les robots, mais ensuite, ça va où ?
Alors, ces déchets qui sortent du centre de tri, ce ne sont plus des déchets. Ce sont ce qu'on appelle des matières premières secondaires de l'industrie. C'est-à-dire que ça redevient des matériaux qui vont servir à refabriquer des objets. Ces matériaux sont expédiés dans des usines qui sont en quasi-totalité en Europe. Alors nous, sur la partie sud, les papetiers et les plasturgistes sont essentiellement au nord de l'Espagne, autour de Barcelone. Il y a une fonderie pour les métaux qui se situe au Pays Basque. Puis sinon, c'est dans les usines d'ArcelorMittal du côté de Marseille, où les différents métaux sont refondus pour fabriquer des vélos, des voitures, d'autres boîtes de conserve, d'autres emballages. C'est ce qu'on appelle la valorisation matière. Il faut savoir qu'en termes de déchets, on a trois types de valorisation. On a la valorisation matière, on a la valorisation organique et on a la valorisation énergétique. La valorisation matière consiste à revaloriser la matière telle qu'elle est à la sortie de la poubelle, donc le plastique, les métaux, les papiers, etc. La valorisation énergétique, c'est les déchets, par exemple, qu'on va mettre dans un incinérateur. Alors, ça peut être les refus de tri. Hein. À l'issue de la chaîne de tri, on a toujours des refus. Ces refus vont devenir ce qu'on appelle du CSR, c'est-à-dire du combustible solide résiduel. Et ce combustible va pouvoir être brûlé soit dans un incinérateur à déchets, pour produire de la chaleur qui va servir à chauffer des quartiers. Par exemple, l'incinérateur du Mirail à Toulouse sert à chauffer la totalité du quartier du Mirail et la piscine du Ramier, par exemple. Ce sont des déchets qui peuvent aussi être utilisés par l'industrie cimentière pour être utilisés dans les fours de précalcination et refabriquer du ciment. C'est le cas notamment à Martre-Tolosan, à côté de chez nous. Il y a également un troisième mode de valorisation, c'est la valorisation organique. C'est la valorisation qui est employée pour les déchets verts notamment, où les déchets verts vont être broyés, compostés, et ce compost va être réutilisé pour l'amendement organique des sols.
Pour l'instant, on s'est focalisé un peu sur la poubelle jaune, mais on a les déchets organiques. C'est-à-dire, depuis le début de l'année, on n'a plus le droit, entre guillemets, de mettre ces déchets organiques, tout ce qui est reste de table, tout ce qui va être reste de jardin, dans la poubelle. Il faut l'utiliser autrement, dans un composteur ou ailleurs.
Alors, c'est pas vraiment qu'on n'a pas le droit. Il faut, pour pouvoir traiter ces déchets organiques, avoir des solutions. Et ces solutions, dans certains secteurs, n'existent pas encore. Ce sont notamment des méthaniseurs spécifiques. Il n'y en a pas dans la région, donc organiser aujourd'hui une collecte spécifique des déchets organiques, c'est un petit peu compliqué. Par contre, nous sommes dans un secteur assez rural où 75% des habitations possèdent un jardin. Et c'est là où on peut agir en mettant en place du compostage individuel, hein, en prenant un composteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les déchets organiques représentent à peu près 40% du poids de la poubelle grise. Donc il y a vraiment un enjeu environnemental important. Et c'est un déchet qui n'est pas mis à la collecte au traitement. Et donc c'est un déchet qui ne coûte rien à éliminer. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le coût de l'élimination des déchets sur la communauté de communes du Vauvrestre représente près de 3,5 millions d'euros par an, ce qui est quand même considérable. Donc tout déchet qui n'est pas produit est un déchet qui n'a pas à être traité, est un déchet qui ne coûte pas. Mmh. D'ailleurs, au niveau des composteurs, dès le mois de janvier 2026, nous allons modifier la procédure pour pouvoir bénéficier d'un composteur qui, je le rappelle, sont mis à disposition gratuitement. Il suffira d'appeler le service déchets de la communauté de communes dont vous trouverez le numéro sur le site, de s'inscrire. Et dès lors que vous aurez été inscrit, vous pourrez aller la semaine d'après récupérer votre composteur sur la déchetterie de votre choix, que ce soit celle de Carbonne ou de Montesquieu-Volvestre, aux horaires d'ouverture habituels des déchetteries, c'est-à-dire de 8h45 à 11h45 et de 14h à 17h45. Avec le composteur, nous vous fournirons un bio-seau qui sert à entreposer les déchets dans votre cuisine en attendant de les amener jusqu'au composteur. Et un guide de compostage de bonne pratique qui vous permettra de gérer efficacement, le plus efficacement possible, votre composteur et vous bénéficierez de compost de qualité pour vos plantes d'ornement ou votre jardin potager.
Ce qui signifie donc que tout ce que je ne mets pas dans la poubelle jaune, tout ce qui ne va pas dans mon composteur, je peux le mettre dans la poubelle noire. C'est-à-dire tous les produits d'hygiène dangereux, entre guillemets, qui ne vont pas ailleurs.
Alors, les produits d'hygiène, les produits dangereux, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que les produits dangereux en tant que tels, hein, que ce soit les solvants, les restes de peau de peinture, doivent être amenés en déchetterie. Par contre, effectivement, les produits d'hygiène, les linges d'hygiène, les mouchoirs, les couches, etc., doivent être mis dans la poubelle noire.
On parle des déchetteries, on va en profiter pour dire que les déchetteries sont en cours de rénovation aussi sur le territoire. On a rénové il n'y a pas longtemps celle de Montesquieu qui a été, enfin, c'est en début d'été. Aujourd'hui, les déchetteries, c'est essentiellement, voire exclusivement pour les particuliers, c'est-à-dire que n'ont accès aux déchetteries que les particuliers. Ce sont des déchets domestiques, entre guillemets, tout ce qui est déchets professionnels, ils ont leur propre circuit de traitement.
Oui, 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 pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des entreprises de traitement et d'accueil des professionnels pour leurs déchets, et que s'ils étaient accueillis sur les déchetteries publiques, ben, ça ferait de la concurrence déloyale à ces entreprises, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Par ailleurs, le gouvernement a mis ces dernières années en place ce qu'on appelle les REP. Les REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. Concrètement, ces REP, c'est la mise en place de filières de traitement des déchets qui sont financées par les écotaxes que vous payez quand vous allez acheter un produit. Donc, pour les professionnels, les fournisseurs de matériaux sont aujourd'hui obligés de reprendre les déchets en fin de vie, ça leur coûte rien. Et c'est gratuit à la fois pour les artisans, les commerçants, les professionnels, et pour l'entité qui les leur reprend, hein, le marchand de matériaux par exemple, puisque lui-même voit financer l'évacuation de ses déchets par ses fameuses REP et par les écotaxes qui sont perçues.
Ça, c'est pour les déchetteries. Sachant très bien que pour accéder à ces déchetteries, il faut des cartes magnétiques qui sont individuelles.
Oui, effectivement, il faut des cartes, parce que nous ne souhaitons que n'accèdent à nos déchetteries que les usagers de la communauté de communes du Vauvrestre. Il n'est pas question que les contribuables du Vauvrestre soient amenés à prendre en charge le traitement des déchets qui seraient produits par d'autres territoires que le nôtre.
Et est-ce que ça veut dire que quand on a cette carte, on est limité en nombre d'apports ou en volume d'apports ?
On est limité à 52 apports par an.
Donc un par semaine ?
Un par semaine, exactement.
Si on devait encore, nous, améliorer cette gestion des déchets en tant que particulier, il y aurait quoi comme conseil à nous donner ?
Le conseil à donner aux particuliers, c'est d'être vigilant sur le tri, de mettre tout ce qui peut aller au tri dans la poubelle jaune, parce que c'est quand même assez dommage d'aller enfouir des déchets qui sont des matières premières secondaires de l'industrie, comme on le disait, ou qui peuvent être valorisés par le biais d'une valorisation énergétique. Ça, c'est le premier conseil. Et puis, c'est un vrai bénéfice de disposer d'un composteur, parce que ça permet de pouvoir créer un amendement de qualité pour ses plantes et pour son jardin. L'autre conseil qui pourrait être donné, c'est qu'aujourd'hui, pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez acheter dans n'importe quelle grande surface de bricolage des broyeurs à déchets verts. Et quand on a un petit jardin, on peut se broyer les déchets chez soi et utiliser ce broyat comme paillage, comme amendement, comme structurant du sol. Ça ramène de la microbiote dans le sol, ça favorise la vie de la microbiote. Ensuite, vos plantes et vos légumes, beaucoup plus résistantes aux maladies, etc. etc. Donc vraiment, ce n'est que du bénéfice de procéder comme ça.
Moi, ce que je retiens surtout, c'est que, en fait, les déchets sont tous valorisables. Ça ne part pas dans des pays étrangers avec beaucoup de plastique résiduel. C'est traité chez nous et ce que je jette, c'est retravaillé pour que ça soit reconsommé, en particulier, par exemple, pour les bois.
Le seul déchet, de manière générale, les seuls déchets qui ne sont pas revalorisés en tant que tels, ce sont les ordures ménagères résiduelles, ce que vous mettez dans le sac noir. Et même ça, une fois enfoui au centre d'enfouissement de Piurc, les gaz de fermentation sont captés et réinjectés dans le réseau, hein, puisque les gaz de fermentation sont du méthane, essentiellement, et réinjectés dans le réseau et servent à la consommation de gaz de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'usagers et d'habitants localement. Ce sont des gaz renouvelables. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, l'ensemble des autres déchets sont valorisés. Par exemple, si on prend l'exemple du bois, quand vous allez acheter un meuble en panneau de particules, il est possible que ce meuble soit constitué en partie d'un meuble que vous avez jeté quelques mois avant dans la déchetterie de carbone de Montesquieu, puisque ce bois est récupéré, broyé, envoyé à l'usine Eger à Riom-les-Landes, où de nouveaux panneaux de particules seront refabriqués à partir de ce bois qui est donc intégralement recyclé.
Et puis certaines choses encore vont aller dans les circuits de vos partenaires, que sont les relais, que sont Emmaüs, la Croix-Rouge, ou les recycleries d'une façon générale, quelle qu'elle soit, pour pouvoir récupérer du matériel et leur donner une seconde vie.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On a des partenariats donc avec Emmaüs qui vient faire son marché chez nous pour alimenter son point de vente à carbone. On a également un partenariat avec le relais, comme beaucoup de communes en France, qui permet de récupérer des textiles qui sont également triés, une partie est remise en marché, et la plus grande partie d'ailleurs va être travaillée pour fabriquer des isolants phoniques et thermiques, notamment pour le domaine de l'industrie automobile. On a des partenariats locaux, notamment avec par exemple les Rudeaux Valoristes, qui viennent eux récupérer des vélos plutôt en bon état, qui les répare et qui les remettent en marché. Bon, ça a eu de vocation à la fois solidaire et environnementale, puisque ça permet de remettre en marché des vélos qui auraient fini à la ferraille autrement, et ça permet à certains usagers de pouvoir se doter de vélos à un coût tout à fait abordable.
Pour les personnes intéressées également, sachez que le nouveau magazine Envolvestre vient de sortir, le mag de novembre 2025, où justement ça ne traite que de la gestion des déchets. Vous aurez toutes les informations sur l'histoire de la collecte, où ça va, comment c'est fait, des portraits de personnes qui gèrent ces déchets pour savoir un petit peu qui sont ces gens qui ramassent nos ordures au quotidien dans le magazine Envolvestre, que vous pourrez retrouver à la communauté de communes, dans vos mairies, un peu partout sur le territoire. Philippe Marcel, vous êtes le directeur des services collecte et valorisation des déchets à la communauté de communes du Volvestre. On peut vous joindre directement, votre numéro de téléphone est mis sur le site internet volvestre.fr. Je gère mes déchets et là vous aurez également toutes les informations pour récupérer votre composteur individuel, avoir votre carte d'accès aux déchetteries et poser toutes les questions qui vous intéressent. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Galaxy.
Merci de m'avoir accueilli sur Radio Galaxy.
Avec plaisir.
Partout dans le Volvestre, la seule radio que j'écoute, c'est Radio Galaxy sur 98.5 FM.